Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions d'amour, de corps ou de sexualité. Libre Antenne, donc, ça veut dire que vous pouvez nous appeler, que ce soit pour nous poser une question, que ce soit pour apporter un témoignage ou pourquoi pas un coup de gueule ou un coup de cœur. Enfin, la Libre Antenne, libre expression. Et pour le coup, on essaye que ce soit vraiment sans tabou ni jugement. Alors évidemment, c'est pas si simple parce que nous sommes bien des êtres humains derrière les micros. D'ailleurs, on peut peut-être se présenter ce soir. C'est Myriam et Marina au micro.
Et à la technique, c'est Noémie et Marty, donc qui attendent vos coups de fil au 04 76 09 09 09.
Voilà.
Si vous avez écouté des émissions précédentes, vous pouvez bien entendu avec plaisir pour nous rebondir sur des choses qui ont été dites, que vous soyez d'accord, pas d'accord. Que vous vouliez amener d'autres éclairages. Enfin bon, nous, on est là pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, y a pas de mauvaises questions ou de questions bêtes. Tout est intéressant, quoi.
Ah, carrément. Et puis, il n'y a pas non plus de mauvais moment pour nous appeler. Parce que nous, évidemment, en attendant vos coups de fil, on prépare un peu des discussions, des thématiques aussi pour peut-être susciter l'envie chez vous d'appeler pour réagir. Donc, coupez-nous la parole.
N'hésitez pas.
Voilà. Moi, je dis une émission de calibre réussi, c'est une émission où on n'entend pas beaucoup les animatrices parler.
Ce soir, l'émission sera-t-elle réussie? Nous verrons.
Ok. On s'écoute une première musique avant de se lancer?
Absolument. Alors, c'est Living Room avec Dyke.
This is what I like.
Toujours sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97FM, après une petite pause musicale, vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. C'est aussi possible de nous écrire.
Absolument, oui. De temps en temps, on est très très contente d'ouvrir notre boîte mail et de tomber sur des mails de personnes qui ont écouté des émissions ou pas, mais en tout cas qui témoignent. Et je vous encourage vivement à le faire si le fait d'appeler, par exemple, en direct, vous chiffonne un peu, vous osez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Alors, l'adresse, c'est calibre, donc C-A-S, le tiret du milieu, là, du 6, libre, L-I-B-R-E-S, @ poivron, donc P-O-I-V-R-O-N, .org.
Et des fois, c'est vrai qu'on a reçu des textes comme ça par mail d'auditeurs ou d'auditrices et que ensuite le fait de le lire à l'antenne, je me rappelle d'une auditrice qui a appelé du coup pour dire « Ah, ça me fait plaisir, j'entends mon texte, ça me donne envie d'en parler avec vous ». Des fois, si ça donne plus de courage. Et moi, j'avais envie de lancer un petit appel à témoignage, une réflexion que je me faisais cette semaine. Mais j'avais pas spécialement envie de développer plus ce soir parce que j'aimerais justement avoir de la matière, enfin que ce soit une discussion quoi avec des gens sur le rapport avec les téléphones, notamment les téléphones portables dans les histoires, dans les relations amoureuses. Est-ce que le fait de s'envoyer des SMS, c'est quelque chose d'important ou pas? Voyez, est-ce qu'on s'en envoie beaucoup? Est-ce qu'on s'envoie des textos tous les jours? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'endormir si on n'a pas notre petit texto du soir? Quelle importance ça prend dans les histoires? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est pas moins positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça vous arrive de fouiller dans le téléphone portable de votre partenaire pour une raison ou pour une autre? Quel effet ça fait? Quel effet ça nous fait quand on fouille dans notre téléphone portable? J'ai l'impression que cet objet-là, le téléphone portable, ça a changé des choses dans les relations amoureuses. Enfin, alors comme ça sonne comme ça, comme de notre temps où il n'y avait pas le portable, c'était pas la même.
Le télégraphe, hein, c'était plus compliqué.
Voilà. Non, bon. Ok, c'était pas pour que ça sonne réac, c'était plutôt comme un truc de tiens, ça fait partie de la plupart de nos vies, la plupart d'entre nous, on a des téléphones, et même celles qu'en ont pas ou ceux qu'en ont pas, peut-être des fois on relationne avec des gens qu'en ont. Bref, voilà. Si vous avez envie d'apporter une petite pierre à cette réflexion que je me faisais, je trouverais ça vachement intéressant qu'à Calibre on discute un peu de ça.
Ouais. Les nouvelles technologies et l'amour.
Ouais, mais version portable, tu vois. Okay. Le truc, à la limite, maintenant, les portables, ça va aussi sur Internet, c'est vrai. Donc, ça peut être
ça,
aussi
les mails. Totale.
Bon, je pensais au SMS, en tout cas. Moi, j'en étais encore à, tu vois, le téléphone, quoi. Pas celui qui fait Internet, tout, quoi.
Ouais, si ça vous dit, si vous avez des choses à en dire, hein, n'hésitez pas, par mail, par téléphone.
Voilà.
Et moi, j'avais envie, vous savez, la semaine dernière...
T'es un peu perdue dans le temps.
Oui, je suis d'ailleurs perdue. Les copines là, qui étaient à l'antenne avaient annoncé une soirée qui s'appelait la Grosse Soirée, qui était vendredi dernier à la BAF sur Grenoble, et où l'idée, c'était parler, d'écouter des sons et tout ça, et de parler de filles, de meufs, en tout cas de Gwyn Gross. Donc, j'y suis allée. Et c'était assez génial comme soirée. À chaque fois que cette équipe là, organise des soirées autour de la grosseur, c'est vraiment c'est des soirées qui font vraiment beaucoup de bien. Donc je vous invite la prochaine fois qu'on vous annoncera ça à bien le noter dans un coin de la tête si vous avez envie de venir. Donc en gros, je vais pas m'éterniser hein, parce que la soirée elle est passée, mais c'est vrai qu'on a vu et entendu pas mal de choses. Bon, déjà pour les papilles, on avait des petits plats dans des verrines et tutti quanti, enfin bon, ça trop tard, avec de la musique en fond sonore faite par des différents en groupe de meufs grosses. Donc il y avait, non, c'est que je me rappelle qu'on a pu passer à Calibre, il y avait les Miss Platinum, là. Mm-hmm. Qui fait Give Me the Foot. Enfin bon, c'est des morceaux qu'on a déjà passés qui sont assez sympathiques. Et après, on allait dans une petite salle où on était installés pour écouter une émission de radio dont N'est pas des cadeaux, qui est une émission de radio lyonnaise de personnes trans, PD et Gwyn, et qui était donc sur justement ce thème des grosses Gwyn. Et c'était une émission assez intéressante que vous pouvez retrouver aussi sur Internet. On vous donnera les coordonnées plus tard. Et pendant cette utilisation de nos oreilles, nous avons également utilisé nos yeux, puisqu'en même temps étaient projetées des photos de femmes grosses, certaines nues, certaines pas, seules, en groupe, en couple, hétéro, homo. Et ça faisait, c'était vraiment hyper chouette de voir ces corps, pas du tout les corps qu'on voit sur les affiches publicitaires, et vraiment travailler de manière artistique.
Il y avait un travail esthétique autour de la représentation de ces corps gros.
Ouais, c'est des corps de femmes. Hein,
Ouais.
Et le collectif, je pense que c'est un collectif, enfin je sais pas, c'est peut-être une ou un photographe individuel, mais je pense plutôt que c'est un collectif, il s'appelle Adipositivity, donc genre positiver les tissus adipeux, bon c'est pas très beau dire comme ça, mais c'est l'idée quoi, et je vous invite à aller voir vraiment ça.
C'est un collectif français ?
Non, ça vient des États-Unis.
Ouais, je sais qu'aux États-Unis, il y a des groupes féministes qui bossent vachement sur... le thème de la grosseur, on dit, hein, c'est un peu une idée reçue, mais bon, peut-être que c'est un peu vrai que le rapport à la grosseur n'est pas le même aux États-Unis. Mm. Enfin, moi, j'ai plusieurs copines qui sont revenues des États-Unis en disant je suis plus tranquille là, par rapport à mon poids là-bas, quoi. Ouais. Je suis moins regardée de travers. Enfin, bon, aussi qui disent, de toute façon, j'ai l'air mince là-bas.
Oui, c'est France, ça, je pense que c'est d'autres.
Là-bas, je suis. Ouais. Dans la catégorie petit gabarit.
Voilà, c'est d'autres proportions, effectivement. Ouais. C'est des photos de femmes que ici, enfin, ou même sans doute aux États-Unis, on qualifie d'obèses. Vraiment des corps de femmes grosses.
Mais du coup, les regarder, ça te questionne, quoi. Ça, quelque part, qu'est-ce que ça fait ça,
au départ, comme on n'a pas l'habitude, ça fait un truc un peu, pas choquant, mais un peu interloquant. Genre,
Un peu dérangeant.
J'irai pas jusque-là, parce que moi-même, n'étant pas filiforme, comme on dit...
Les bourrelets,
j'en ai déjà vu, quoi. Mais non, c'était vraiment... Et puis au fur et à mesure, parce qu'il y en a vraiment plein, des centaines, hein, tu trouves ces nanas vraiment super belles, érotiques même. Enfin, il y a une espèce de désir qui... Non, vraiment super chouette. Je vous conseille aussi, pareil, on vous mettra sur le site internet les liens... Et la question qu'on s'est posée avec une copine quand même, parce que dans ces photos, il y a pas mal de super beaux vêtements ou dessous, et du coup en grande taille, voire très grande taille. Et on s'est dit, mais en fait, en France, pour trouver des vêtements chouettes en grande taille ou en très grande taille, eh ben vas-y quoi, tu peux chercher. Hein, parce que...
Ouais, mais ça, c'est aussi, je crois, une différence du coup avec les États-Unis. Hein. Encore une fois, là, ce témoignage de copine qui. Parce que je suis pas. Personnellement, je suis jamais allée aux États-Unis, qui disent, c'est plus facile de trouver des fringues quand t'es au-dessus du 46, quoi. Mmh. Hein, et parce qu'effectivement, les standards sont pas les mêmes, et des belles fringues, quoi. Des fringues qui ont la classe.
Oui, et puis qui mettent en valeur, pas forcément qui cachent et qui font un truc informe. C'est vraiment un autre rapport. Et du coup, dans ces photos, il y a pas mal ça, et on se disait, peut-être ici, c'est plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut commencer à se faire ses fringues. Bon, c'est une autre démarche, quoi.
Ouais, mais après, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec l'heure d'Internet, hein, peut-être on peut plus facilement trouver des trucs.
Ouais, mais alors acheter des fringues sur Internet quand t'es pas filiforme, laisse tomber. Hein.
Mais tu veux dire que t'as besoin d'essayer.
Ah ouais, mais grave. Hein. Moi, qui suis pas grosse, je vais plus dans les magasins. Mais je veux dire, parce que tu prends 20 jeans et t'en ressors avec au mieux un, et encore parce que tu serres le cul pour qu'il rentre parce que t'es dégoûté et tu en chiales dans les cabines. Non, faut vraiment essayer, c'est...
Je pensais à des sites peut-être spécialisés justement pour personnes grosses.
Mais encore, ces photos montrent que c'est pas la même répartition des grosseurs, par exemple.
Comment ça ?
D'un corps à l'autre, d'une femme à l'autre. Ça veut dire qu'il va y avoir des femmes qui sont grosses du ventre, des cuisses, des seins, d'autres qui vont avoir des tailles fines et juste une grosse, comme on appelle une culotte de cheval, d'autres juste un ventre. Enfin, du coup, c'est hyper différent aussi, quoi.
Et oui, on met pas toutes les graisses au même endroit.
Voilà.
D'accord.
Et donc, puis,
Enfin, cette soirée.
Voilà. Et dernière chose qu'on a... Bon, outre les super discussions hein, avec toutes les personnes présentes, dernière chose qu'on a vue, c'est des petits films. Alors, d'une nana que j'ai totalement kiffée, qui s'appelle Joy Nash. Pareil, on peut retrouver sur Internet. Elle, c'est une nana qui est... Elle dit qu'elle fait une centaine de kilos, je crois. Et elle a alors ce truc assez états-unien de la positive attitude, mais elle fait des petits films de entre, je sais pas, 3 et 5 minutes pour un peu déculpabiliser les nanas grosses, pour leur donner des outils, pour répondre par exemple à un gamin qui te demande si t'as un bébé dans ton ventre dans la rue, et tout ouais. Avec un énorme sourire et une espèce de pêche génialissime, quoi. Joy Nash, alors... Il y avait des sous-titres qui ont été faits spécialement pour la soirée. En fait, cette chose qu'on a vue, vous pouvez les retrouver sur le blog des nanas qui ont organisé cette soirée.
Ah, voilà. Elles ont un blog.
Elles ont un blog qui s'appelle Gross, au pluriel, G-R-O-2-S-E-S, .wordpress, donc W-O-R-D-P-R-E-2-S.com, Gross. .wordpress.com. Du coup, les films de Joy Nash, les trois qu'on a vus, là, ils y sont. La version qui est actuellement sur le blog n'a pas les sous-titres, mais je leur ai glissé un petit mail pour leur demander si elles pouvaient mettre les sous-titres un peu fait maison. Donc, il n'y a pas tout qui est traduit, mais quand même une grosse majorité, une immense majorité. Donc, j'espère qu'elles vont bientôt le mettre sur leur
Une grosse leur majorité.
Une grosse, une énorme majorité. Non, mais ouais. Genre, bon, non, je ne vais pas vous raconter. Vous aurez qu'à aller voir ces films.
Ouais, voilà. D'accord. Bon, et de toute façon, on mettra tout ça en lien sur notre site Cathy. libre.poivron.org.
Voilà, comme le mail tout à l'heure, hein, K-C-A-S, le tiré du milieu, libre au pluriel et .poivron.org.
Ok. Voilà, d'autres choses à raconter sur cette soirée
Bah non, ça fait vraiment toujours du bien de discuter. Alors c'était une soirée qui était en mixité choisie, c'est-à-dire que c'était ouverte aux meufs gwyn, trans... femmes, mais pas forcément grosses. Du coup, ce qui était un petit peu déroutant, c'est qu'il y avait pas mal de femmes assez minces, voire très minces, mais voilà, c'est aussi sympa d'échanger là-dessus avec des personnes.
Ça donne sûrement pas la même chose de parler entre personnes grosses ou avec des meufs moins grosses, mais malheureusement, c'est quand même une problématique qui touche, je pense, d'une façon ou d'une autre, toutes les meufs.
Ouais.
Au sens, je pense, de ce rapport à la pression dans le corps. Je ne dis pas que c'est la même réalité. Hein. Mmh. Je pense qu'on peut avoir des réalités très différentes. Mais malgré tout, c'est une problématique qui
fait chier tout le monde. Les complexes de son corps qui ne ressemblent pas à des images qu'on voit sur les pubs, qui de toute façon ne sont pas des vrais corps puisqu'ils sont trafiqués par ordinateur. Je veux dire,
tout à un moment,
forcément, on complexe tout. Hein, ça.
Barbie, elle ne pourrait pas vivre.
Ah non, Barbie, non.
Elle vivrait pas. Elle tomberait tout le temps. Boum. Elle tiendrait pas debout. Et puis, je crois, ses organes, ils rentrent pas dans son corps.
Ouais.
Elle est pas vivable.
Ouais.
Et ouais. Bon, on s'écoute une petite musique pour faire une petite pause. C'est quoi?
C'est Sons and Daughters. Et c'est Mon... Ah non.
On nous fait signe à la régie
alors
qu'on s'est trompé.
Pas ça du tout. Enfin,
c'est Grâce et Volupté Van Van. Ah, Grâce et Volupté Van Van.
Donc un groupe
toulousain. Ouais. Un groupe toulousain d'électro queer. Allez, je sais pas. On va dire
non,
ça.
C'est plutôt le côté électro. Enfin, vous allez entendre.
Si, c'est de l'électro. Bon, pas de débat musical, Calibre n'est pas une émission musicale.
Et du coup, ce morceau s'appelle Amour furieux.
Sans avoir l'air trop excessive, mes pensées sont exclusives. Arrache-moi les incisives. Je voudrais que ça dure longtemps. Je voudrais qu'on prenne le temps. Je suis cinglée très certainement et t'apprécie fortement. Je veux jamais t'en vouloir. Je veux pas pleurer dans le noir.
s'occuper. J'aime bien comment tu me sers
à me faire gonfler les artères. Comment tu ris,
comment tu parles,
comment tu manges mon visage.
J'aime bien tes
caprices
et puis aussi le goût de ta pisse.
J'ai un petit peu l'amour furieux. Désolé, je peux pas faire mieux.
Si tu veux, je te file un rein.
J'en ai rien à foutre de rien.
Tu me rends débile,
c'est pas facile.
J'ai juste envie de rester docile.
Juste envie de rester docile.
J'aime ton haleine
du matin.
Comment tu tripotes mes seins.
Reste encore sous les draps. Dehors il fait bien trop froid.
Je t'en prie, ne me laisse pas.
J'en peux plus, Noël le roi.
J'ai un petit peu l'amour furieux.
Désolé, je peux pas faire mieux.
Tu peux me présenter ton père.
Moi je m'en branle le cul par terre.
Je m'en branle le cul par terre.
Écoutez toujours Calibre sur 97 FM Radio Kaleidoscope ou alors sur internet, partout ailleurs dans le monde et l'univers cosmique.
Mais oui, Myriam. Bon alors,
je m'emballe.
On va reprendre les pieds sur terre. Donc on vient d'écouter Grâce et Volupté Van Van, un groupe d'électro DIY, hein, do it yourself. Féministe queer, ou je sais pas comment elles se définissent exactement, et elles sont en concert au mois d'avril. Elles vont jouer à Marseille, elles vont jouer à Toulouse, elles vont jouer à Saint-Étienne, elles vont jouer à Lyon. Oui, et elles vont jouer à Grenoble. Oui, bon, mais nous n'avons pas que des auditrices grenobloises, n'est-ce pas ? D'ailleurs, sur la planète entière, c'est ça, Mimi ?
Oui, oui, et au-delà.
Et au-delà. Donc, en tout cas, à Grenoble, elles vont jouer le 20 avril. Donc à la BAF, le centre social autogéré de Grenoble, qui se trouve aux trois chemins des côtes, deux chemins des Alpins. Voilà. Donc le 20 avril en concert avec du reggae et oui, un groupe de punk, contrairement à ce que leur nom le laisse entendre, et avec Infidel Castra, la plus grande diva PD. Que Toulouse ait pu imaginer. Voilà.
Bref. Il y a des réservations pour ce magnifique concert.
Je pense qu'il faut arriver à aller. Parce que sinon, il y aura beaucoup de monde, hein, vu les stars internationales.
Oui,
que c'est.
Bref, cosmique.
Un peu de sérieux. Revenons sur Terre avec.
Oui, avec le. Pour continuer. Alors, déjà, vous pouvez nous appeler et nous lancer sur tout autre sujet ou continuer sur les sujets qu'on vous propose. Donc, le numéro, si vous n'avez pas eu le temps de le noter tout à l'heure, c'est le 04 76 09 09 09. Et du coup, en allant regarder ce super blog grosse.wordpress.com, ça fait un petit moment que j'avais pas été dessus. Il y a plusieurs témoignages à lire dans ce blog, et il y en a un qu'on a sélectionné, et puis on va vous lire quelques passages.
Je vais vous parler de ce que c'est d'être une grosse, une vraie, avec l'IMC et les bourrelets adéquats. Et l'impression qu'elle aurait pu tuer un chaton aveugle sur YouTube, que personne n'aurait pu la haïr davantage.
L'enfance.
Ça commence quand on est petite, bien entendu. Celui qui a dit que les enfants sont d'innocentes petites créatures a dû naître adulte et n'a jamais dû se reproduire. À l'époque, j'avais deux soucis. J'étais grosse et j'avais les cheveux courts et frisés. Prenez un adorable petit baril et foutez-lui une perruque de Gloria Gaynor et vous aurez une image pas trop éloignée de la réalité. Bon, passons en revue les petits moments marquants de l'âge dit le plus tendre.
Être toujours choisi la dernière en cours de PS.
Grand classique de l'ado du. Mais qui ne manque jamais de vous rappeler que s'il y avait eu un vieillard unijambiste et borgne dans la classe, il aurait été pris avant vous pour rejoindre l'équipe de volleyball junior de Bazouillan-Maclin. Je suis grosse et je peux encore me mouvoir, merci bien. D'ailleurs, paraît même que le sport ça aide. Ah non, j'ai dû me tromper, avoir la tête dubitative de mes profs de sport quand j'essaye de finir une longueur de piscine.
Être regardé de travers à l'heure du goûter.
16h vient de sonner. Le suspense est à son comble au collège Jean Jaurès. Tous les regards se tournent vers la grassouillette de service. Que va-t-elle manger ? Va-t-elle ingérer de monstrueusement répugnants et chargés en graisse saturée pour justifier son tour de taille ? Une pomme. Hein ? Comment ça, une pomme ? Bah ouais, tu parles, elle a déjà dû avaler en douce ses deux paquets de petits lus à la graisse d'oie, la fourbe. Et oui, pour les autres, la grosse vit une vie de mensonges constants. Et nous nous interrompons pour accueillir Pascal au téléphone. Et oui, c'est Calibre. C'est formidable. Salut Pascal.
Bonjour.
Ah, bonsoir. Salut Pascal. Bienvenue. Alors, à Calibre.
Oui, je vous appelle parce que j'avais envie de vous lire un texte.
Ah, bah, c'est magnifique.
C'est marrant parce qu'on était en train de lire un texte nous-mêmes, tu sais.
Ah zut.
Bah, c'est pas grave.
C'est très bien.
Ça se trouve, c'est le même.
Non, je crois pas.
Ah ouais, vas-y. Allez.
C'est un texte que j'ai écrit il y a un peu plus d'un an et qui parle d'attente dans les relations. Et je me suis dit, tiens, Calibre, ça parle de relations amoureuses, tout ça. Peut-être je pourrais lire ce texte parce que je trouve ça intéressant de réfléchir à cette position qu'on fabrique ou alors qu'on vit des attentes, quoi.
Mm-hmm. Ouais, avant que tu lises ton texte, j'ai juste envie de te raconter du coup ce que je crois que t'écoutais pas du coup, la Calibre.
Non, j'avais coupé.
Ouais, c'est pas grave, hein, c'est parce qu'on parlait de la grosseur.
Bah, non, mais ça, j'ai écouté, mais ah, oui. Après, j'ai coupé quand j'ai appelé.
Ah oui, d'accord. Oui, non, mais c'était pour que tu vois, quoi.
Ouais. Bah, ça n'a plus aucun rapport.
Mais c'est ça, grave, c'est Calibre.
Très bien. Alors, je vais commencer. À signer ma dernière relation, floue, ambiguë ou amoureuse, avec un gars. Une histoire d'attente. Moi, j'ai des attentes, lui, pas. Enfin, j'ai mes attentes minimales, qu'on discute de nous, un peu de tendresse, des moments d'intimité. J'ai l'impression qu'il s'en fout, qu'il a zéro attente. Ou alors il est totalement bloqué, totalement autiste. En tout cas, loin de moi. Je veux arrêter cette relation que j'ai l'impression de construire seule. Que lui n'en veut pas. Qu'il continue pour me faire plaisir, ou pour ne pas me faire de peine. Je lui dis que je veux arrêter. Il pleure et j'ai envie de pleurer. Pression, compression, dépression, répression. D'accord, il pleure. Il pleure égale, il tient à la relation. Est-ce une réponse à l'une des questions ? Est-ce que j'ai ce que je veux ? Je parle de mes attentes, je lui dis que j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il dit qu'il fera des efforts. Effort sonne comme se forcer. Je dis que j'aurai moins d'attentes. Je ne suis pas suicidaire. Moins d'attentes, car pas confiance en leur réalisation. Je n'accélère pas face au mur, même s'il y a une brèche. Il m'explique que cette relation, pour lui, elle est un peu dégenrée, pas dans la norme. La meuf plus entreprenante, c'est pas dans la norme. Hallucination. La meuf qui attend comme une conne le regard du prince charmant, c'est pas dans la norme, ça ? Mais rien du tout. On est dans un schéma parfait. Moi, j'attends, et lui, il me fait poireauter, nourrit mes attentes, promet, puis me laisse. Lui, valorisé, et moi, vide. Et lui qui tente de me faire croire que dans cette piscine de crottes j'ai du pouvoir, je suis entreprenante, nous avons inversé les rôles, j'ai du pouvoir, blablabla. Il essaye de me faire croire ça à moi. Moi qui suis là à l'attendre, à attendre qu'il me donne un truc, n'importe quoi, il sait que j'accepterai tout vu que je n'ai rien. Lui qui peut choisir le moment, le temps et ce qu'il donne, et moi qui attends et attends et attends. Moi qui le regarde pleurer et pleure car je blesse celui que j'attends. Alors je crois les promesses car il pleure. Mais je garde un frein, tout de même, car y croire serait suicidaire et je soupçonne le mur. Le mur approche. Je ne le vois pas car au dernier moment, il a mis une grande lumière éblouissante à travers la brèche. Une lettre envoyée comme ça avant un départ en voyage. Je ne vois pas le mur, je n'y vais pas trop vite, avec un peu de précaution, je ne vois pas le mur. Le choc est à peine violent. Un choc, un écrasement contre le vide, la sensation de ne pas être respecté, jamais. Le choc confirmatif. Bam, prends-toi ça dans la gueule, mange tes dents. Bam, conclusion. Enfin, bam, conclusion pour moi. Bam, lui, je ne sais pas. Est-ce que ça m'importe, je ne sais pas. Un mur entre nous, le deuil à finir, adieu. Et puis quelques mois, écho dans le tunnel. Il paraît qu'en ce moment, il ne va pas bien. J'y pense. Bon, allez, je m'étais promise d'attendre de ses nouvelles avant d'écrire. Encore attendre. Mais il va pas bien. Alors j'écris un mail comme si de rien, une réponse comme si de rien, je réécris et puis rien. J'attends, encore attendre, rien. Je m'étais promise de ne plus attendre et pourtant, rien. Plus tard, des mois plus tard, écho. Écho dans le tunnel des amis. Il va pas bien, c'est pas la forme, ça a pas l'air cool sa vie. Je n'attends plus rien. Rien. Qu'y a-t-il à attendre? Et puis pourquoi attendre? Est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ou pas? Pourquoi? Pour une vieille sensation d'affection bouffée par des attentes déçues? Vais-je écrire et me sentir encore bouffée, piétinée? Vais-je écrire et me sentir bernée, hue? Vais-je écrire car je sens une pression, car je sens une affection que je ne veux plus car elle m'a eue, bouffée, piétinée, déçue? Si j'écris, vais-je avoir l'impression de ne pas me respecter, moi, mes décisions, mes attentes? Est-ce une histoire d'honneur? Est-ce une histoire de fierté? Pourquoi moi? Et si je lui écris, que vais-je attendre? Encore attendre? Vais-je attendre? Encore attendre? Et encore attendre? Attendre une réponse? Encore attendre? Et attendre quelle réponse? Encore attendre? Foutage de gueule. Voilà, c'est fini.
Merci.
Merci.
Est-ce que tu as envie de discuter de ce texte ou pas spécialement?
Je sais pas. En tout cas, je trouve ça intéressant de discuter de ces rapports-là. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, d'avoir des attentes ou de fabriquer des attentes, ça crée des rapports un peu de pouvoir dans les relations. Et puis, je trouve que c'est important de les... de les discuter, en tout cas aussi sous cet angle-là, quoi.
Parce que, est-ce que toi, t'arrives à identifier un peu, justement... Les leviers qui créent ces trucs d'attente?
Ben, en tout cas, je pense ce truc de dire « oui, je vais faire des efforts » ou « bien sûr, je vais faire ça » et tout ça. Enfin, ces espèces de promesses-là qui se font hyper facilement dans une relation pour, je pense, pour rassurer ou je sais pas quoi, si on n'est pas capable de les tenir ou si on n'est pas capable de vraiment les assumer, et ben c'est ça qui fabrique en fait de l'attente face à, enfin pour l'autre personne, et qu'en fait après l'autre personne, ben, pour le coup elle se met à attendre même si elle avait des distances avant ou je sais pas quoi. Et du coup moi je trouve ça assez merdique.
Oui, c'est-à-dire si c'est formulé d'entrée de jeu, ah ben non mais moi je veux pas du tout être là-dedans, même pas t'y penses, c'est pas possible en termes de relation, ben soit t'acceptes ça, soit t'acceptes pas, mais t'es pas dans justement cette attente de il ou elle va changer.
Mais moi, j'ai l'impression que ça prend un peu de cours quand même, ces trucs d'attente. Enfin, j'ai jamais commencé une relation d'amitié ou quoi avec des gens, parce que, pour moi, c'est un peu global à n'importe quelle forme de relation, pas spécialement relation d'amour ou je sais pas quoi, ou de couple. Mais je trouve qu'un peu n'importe quelle relation, quand on la commence, on se dit pas « attention, il faut pas que je sois dans l'attente, attention, nanana », c'est que juste à un moment, il y a quelque chose qui se met en place, où ça se fabrique, et puis où là, dans le texte, c'est un truc entre un gars et moi, et où je pense il y avait ce rapport-là où j'ai l'impression, enfin, ce rapport de genre, en fait, qui exacerbait pour moi un peu le ressenti, ou qui m'énervait encore plus, en fait, que ce soit un gars qui me fasse ce coup-là. En qui j'avais essayé de fabriquer un minimum de confiance et puis que ça avait pas marché, encore une fois. Mais...
Oui, un des trucs qui t'a pas mal énervé aussi, c'est que lui, il a essayé un peu de nier ses rapports de genre en disant que toi, t'avais une forme de pouvoir parce que tu serais une meuf un peu grande gueule. Enfin, je sais pas, je peux imaginer ce qu'il y a que dans le texte, tu dis un peu ça, que quand on semble un peu émancipé, c'est comme si, du coup, ça faisait que ça n'existait plus, les rapports de genre.
Oui, et puis je pense un truc de planer, d'être face à une féministe, alors de se dire « ah, c'est bon, et elle me dira si ça va pas, je sais pas quoi », alors qu'en fait, c'est pas si simple, j'ai l'impression, et puis qu'on n'a pas tout dépassé. Et puis oui, de voir la première couche, en fait, et puis de pas voir qu'en fait, je sais pas, il n'y a pas qu'une seule manière d'avoir une relation stéréotypée, en fait, qu'il y a plein de petits trucs qui s'accumulent, qui font du stéréotype dans les relations. Et que c'est pas juste qui c'est qui est entreprenant, qui fait du stéréotype, mais en fait plein de choses. Et ça, c'est sûr que lui, il a pas trop capté. Et après, je crois que j'avais encore plus envie de lire ce livre, parce que récemment, j'ai une amie très très proche à moi, et elle m'a fait exactement ce genre de reproche, d'être fort en attente vis-à-vis de moi, et que je lui rendais pas grand-chose.
Ah merde, tu t'es retrouvée dans l'autre position.
Et ouais, et c'était excellent de se retrouver dans l'autre position.
C'est intéressant.
Oui, je veux dire, ça fait du bien. Ça fait réfléchir aussi autrement. Mais moi, je me suis dit, oh là là, j'ai l'impression d'être un gros gars con. Je fais pas attention. Qu'est-ce que je fais dans ma vie, machin. Et puis après, je me suis dit, bah voilà, en fait, juste assois-toi devant ce qu'on te met en face, réfléchis-y, et puis regarde ce que tu peux faire. Ah. Et Et puis, et c'est quoi tes objectifs? Et puis voilà, après je lui ai répondu, j'ai répondu à cet ami, ben écoute, je vais faire des efforts, et pas efforts dans le sens où je vais me forcer à faire des choses, mais efforts dans le sens où, où je vais faire ce que je peux pour que ce que je veux vraiment, ça existe. Et ce que je veux vraiment, c'est qu'on ait une relation chouette. Alors je vais faire tout ce que je peux pour avoir, obtenir ça, qu'on ait une relation chouette. Je lui ai un peu répondu ça, je trouvais ça un peu moyen, et puis en même temps, je voyais pas trop d'autre ce que je pouvais dire.
Oui, t'as essayé d'être sincère et d'être quand même dans un truc de vraie réflexion, quoi.
Ouais, après, c'est pas facile, hein, parce que bah ouais, c'est toujours ce truc-là de... J'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que se forcer, là, dans une relation, dans un truc-là, de donner des choses qu'on veut pas vraiment donner, mais qui sont quand même importantes à donner, ben, ça crée aussi des trucs pas simples. Enfin, c'est un peu bizarre aussi, quoi.
Et à la fois, forcément, c'est... d'une certaine manière plus coûteux de d'entretenir une relation, forcément c'est pas réagir juste soi avec soi, donc ça demande de faire des efforts, mais je trouve que la limite entre faire des efforts, enfin nourrir une relation et se forcer, parce que des fois, genre, je sais pas, si tu vas pas bien, t'as envie de voir personne, d'appeler personne, et ben si c'est toujours les autres, on va dire, je prends un truc un peu schématique, hein, qui vont t'appeler pour se voir et tout ça, ben, au bout d'un moment, peut-être les personnes vont en avoir marre. Donc des fois, faut prendre sur soi aussi pour nourrir ces amitiés-là.
Oui, et puis carrément, je suis tout à fait d'accord. Et aussi, un truc où à un moment, ça fait des déséquilibres dans nos... Je sais pas, en fait, dans nos besoins affectifs. C'est-à-dire que des fois, une personne qui a plein d'amis, qui est un peu comblée, quoi, sur le plan affectif, eh ben, elle va pas être très attentive à ce qui arrive aux personnes avec qui elle a des relations, et où les autres personnes, une personne, par exemple, qui est, justement, qui est un peu, pas beaucoup d'amis, ou pas assez, ou qui se sent seule, eh ben, elle va avoir fort besoin de cette relation, par exemple, et ça va pas être réciproque de la même manière. Je sais pas si c'est très clair.
Ouais.
Non, mais surtout, ça peut être super mouvant selon les moments, les périodes.
Oui, ça c'est...
Tu vois, ça dépend, mais ce que je trouve intéressant aussi là dans les histoires d'amitié, j'ai l'impression que ça arrive plus souvent que ça, ce soit mouvant selon les périodes. Et que ça met quand même pas exactement en jeu les mêmes choses et les mêmes rôles. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que ces rôles-là dont tu parles, d'être en attente ou de susciter l'attente, ce sont plus forts et pas immobiles, mais tu vois, plus figés dans les relations de type amoureuse que dans les relations dites d'amitié.
Ben, ouais, je pense que ça dépend. Moi, j'ai l'impression que c'est dans des relations fortes, en fait, et un peu durables. Que ça peut exister comme ça. Parce que vraiment, avec cette amie, c'était devenu assez typique, enfin, je sais pas comment dire, quoi, c'était devenu schématique, quoi, entre nous deux, ce rapport-là de... Oui, qu'elle, elle était vraiment plus en demande que moi, et...
Mais du coup, en demande de quoi? De temps passé ensemble, par exemple?
De temps passé ensemble, d'avoir des mails un peu longs, je raconte ce qui m'arrive, de trucs comme ça. Ouais. Ou d'attendre des lettres. Et que elle m'en écrivait, par exemple, des lettres, elle me proposait des moments où se voir, des choses comme ça. Et moi, souvent, je répondais par la positive, mais souvent, par exemple, ces longs mails, je répondais de manière assez courte ou des choses comme ça, et ça faisait vraiment un truc déséquilibré entre les deux, dans qui est dans la proposition et
qui réagit
aux questions, en fait, ou des trucs comme ça.
Oui, oui. Et du coup, ça, peut-être que c'est pas encore, peut-être que ça a pas encore eu le temps d'agir, mais t'as l'impression que ça va changer, toi. Tu sens que ça peut, vous allez justement réussir à sortir de ces rôles-là et tout.
Ben ouais, en tout cas, je sais pas. Je sais pas comment ma manière de m'exprimer vis-à-vis d'elle et ce que j'ai dit, ça va. Est-ce que elle, par exemple, elle va avoir moins d'attentes ou je sais pas quoi? En tout cas, moi, c'est sûr que dans ma manière de réfléchir cette relation et de l'envisager, eh ben, ça fait un truc, en tout cas, où j'ai l'impression d'être beaucoup plus claire avec moi-même et vis-à-vis d'elle aussi, quoi. Du coup, ça, j'ai l'impression que ça va changer là-dessus. Aussi, je pense que c'était un peu un truc de... C'est une relation, un peu dans ma vie, j'ai l'impression qu'elle peut pas changer, quoi. Qu'elle peut pas disparaître un peu assise, quoi. parce qu'elle dure depuis super longtemps, tout ça. Et du coup, je pense que c'est un truc où je me suis mise à pas forcément y donner beaucoup d'énergie, vu qu'elle pouvait pas être mise en péril.
Ouais. Vu qu'elle était stable.
Ouais. Et là, en fait, de me remettre un peu, là, de... Non, mais en fait, une relation, ça se nourrit forcément.
Ouais, c'est toujours fragile.
Oui, ou même si... Oui, c'est ça, mais même si c'est fort, à un moment, ça peut s'estomper, en fait, ou disparaître, ou je sais pas, ou il peut y avoir des trucs de prise de distance malgré soi, en fait, par manque d'attention. Je crois que ça m'a remis un peu ça en face des yeux.
Ouais. Bah, ce que je trouve chouette dans ton témoignage aussi, là, enfin, en tout cas, ce qui me touche, moi, c'est que... Et ça me fait penser Calibre, on dit que c'est corps, amour, sexualité, et là tu parles d'amitié comme on parle, enfin on, dans, de façon générale, comme on parle d'amour, et je trouve c'est ça très fort pour moi de aussi raconter comment nos amitiés sont très importantes et comment il est, par moments, elles nous tiennent à cœur, quoi. Et que c'est très, très important d'effectivement d'y accorder de l'importance, de l'intérêt et d'y faire attention, d'y réfléchir. Voilà. Ça, donc, pour ça, je te remercie vraiment de ton témoignage.
Oui. Non, mais c'est... Mais moi, je trouve qu'il y a quand même... Mais il y a ce truc qui se joue entre... l'amitié et l'amour, mais on en discutait avec une autre copine sur comment, à un moment, nos amours, enfin, vos amours, vu que je partage pas de relations amoureuses, sont assez facilement formalisables. On discute de la relation, c'est quand elle commence, quand elle prend fin, peut-être plus facilement on choisit les moments qu'on passe ensemble. Des choses comme ça. Oui. Et ça, on le fait peu dans les amitiés dans la vie. Moi, j'ai pas d'amitié où j'ai dit à quelqu'un « Ah, maintenant on est amis » et puis « Ah bah maintenant, c'est fini ». Et ça, je pense que c'est un truc où, qui change beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est pour ça aussi qu'on réfléchit beaucoup aux amours et aux relations amoureuses, tout ça, c'est parce qu'on les formalise. Et que les amitiés, comme on les formalise pas, c'est hyper rare qu'on ait des discussions... comme ça, par exemple, sur les attentes, sur qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir cette relation.
Et qu'on contractualise un peu plus nos amitiés, alors.
Ouais, avec une sorte de notion d'engagement affectif aussi, en fait. Et je suis hyper reconnaissante de cette amie-là d'avoir posé tout ça sur la table, d'avoir osé, en fait, à un moment, me dire « bon, là, il faut qu'on discute de quelque chose ». Et puis de me lâcher tout, quoi.
Moi, c'est vrai que ce truc de formalisation, c'est... j'ai pu entendre parler dans des amitiés, mais poussé dans le sens construire une nouvelle famille, pas basée sur la sexualité, l'amour, basée sur l'amitié, mais vraiment de faire du coup des choix de vie, de continuer avec certaines personnes en équipe, on va dire, en communauté, je sais pas comment.
Oui, d'engagement comment dire, dans voilà. Concret, dans la vie quotidienne et tout. Oui, mais c'est ça, c'est intéressant aussi, parce que je pense que la société nous pousse plutôt à avoir ces engagements-là dans le cadre de mariage, par exemple. Alors que c'est aussi des engagements qu'on peut avoir dans le cadre d'amitié, effectivement, de se dire, ok, on va prendre une maison ensemble et un chien. Ouais. Et...
Ou un chat.
Enfin, tout est imaginable, quoi.
Oui.
Ne remettons pas des nouvelles normes sur les amitiés, comme il y en a justement déjà trop sur les amours.
Bah oui, parce que je trouve qu'il y a aussi des gens qui prônent vachement un truc de un peu de choses instantanées et pas forcément de s'engager ou quoi, mais moi je crois pour moi c'est quand même important de... Ça me donne une impression de pouvoir compter sur les gens en fait, cette notion un peu d'engagement affectif qui existe dans les amitiés en fait. Souvent c'est comme si l'amitié c'était implicite, cet engagement affectif. Et pour moi, c'est pas forcément implicite. Je me dis que des moments, c'est peut-être pas mal de le formuler, c'est rassurant en tout cas. Et puis ça renforce des choses, et puis c'est plus facile après. Je pense que c'est plus facile après de poser des choses qui nous vont pas dans des amitiés si on crée cette ambiance où c'est possible de se parler de comment ça se passe.
Et encore une fois, il n'y a pas de lien systématique. C'est pas parce qu'on va poser un engagement durable en amitié que ça veut dire qu'il faut se voir tous les jours, s'envoyer des textos tous les jours. Enfin voilà, ça peut être juste aussi une base de confiance où on sait que l'autre personne, elle sera là, même si c'est dans quelques mois, qu'on ne se voit pas entre-temps. Ou... Enfin après, toutes les modalités sont possibles en fonction des envies, quoi.
Tout à fait. Ouais.
Eh ben, merci, hein.
Ben de rien, c'était un grand plaisir.
Et tu sais quel morceau on va écouter maintenant ?
Non.
On va écouter une chanson qui s'appelle « L'amour, c'est du pipeau » de Brigitte Fontaine.
Waouh.
Ça colle bien, non ?
Oui, trop bien.
Bon, entrepasse les filles au standard et puis merci pour ton appel.
Bonne soirée.
Oui. Au revoir.
Et donc, on enchaîne avec
Brigitte Fontaine.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit Emma, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes, les boulouches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nouveau glaire. Vénus au statut creuse, mais la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mais la dent corveilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos.
Vous êtes toujours sur Calibre ce jeudi 22 mars 2012.
C'est le printemps.
Ouais, depuis deux jours, youhou. Vous pouvez toujours nous appeler, hein, et pas encore 9h, au 04 76 09 09 09. J'ai failli oublier le numéro.
Il est tellement compliqué.
Et du coup, avant d'avoir l'appel de Pascal là, sur les attentes dans les relations affectives, on était en train de lire un témoignage d'une fille grosse qui raconte comment ça s'est passé dans son enfance, tout ça. Et ben, on avait envie de finir cette lecture, donc on va reprendre où on en était. On en était où d'ailleurs ?
Alors c'était parce qu'il y a plusieurs parties. Il y a l'enfance, après il y a l'adolescence et après il y a aujourd'hui. Et on en était sur la fin du paragraphe de l'enfance.
D'accord, après être choisi la dernière en cours de PS et être regardé de travers à l'heure du goûter, nous arrivons à être interrogé comme une collabo par le médecin scolaire.
Non, mais tu sais, tu peux tout me dire, là. Tu mets que tu manges des céréales le matin. Mais quoi d'autre ? Dis-moi tout, je suis là pour t'aider. Le médecin scolaire, qui s'empresse ensuite de bien édicter ton poids à voix haute pour que toutes les gamines assemblées dans la salle d'attente se hâtent effarées de répéter dans toute l'école que la petite grosse, là, elle pèse deux fois plus que ses petites camarades. Non, oui, bref, elle pèse deux fois ses petites camarades. Ça m'a facilité l'intégration, je dois dire.
Être obligé de s'habiller en jogging basket.
Bah, à l'époque, si on faisait une taille 46-48 à 12 ans, il fallait aller à Décathlon et décoter une tente Quechua. Enfin, des joggings gris clair chinés, là, vous vous souvenez ?
Être considéré avec un mélange de mépris et de fausse bonne volonté par les adultes.
Oh là là, ma chérie, mais tu es sûre que tu veux un bout de gâteau ? Bon, je sais que c'est ton goûter d'anniversaire, mais je ne pense pas que tu en aies besoin. Bah non, tiens, quelle idée. Avoir 10 ans et vouloir un morceau de gâteau. À quoi pensais-je donc, bon sang de bois ? Ah, je me disais naïvement que ça irait mieux plus tard. J'entrevoyais les années lycée, université et tutti quanti. Avec un peu plus de... Ouais, avec un peu moins de désespoir, disons.
L'adolescence.
J'y croyais, hein, avant de me mettre à parcourir le fameux numéro spécial de tout bon magazine féminin qui se respecte. Être grosse et s'aimer, 10 célébrités qui vivent bien leur poids. Et me demander effarée pourquoi mon idole Beyoncé figurait dans l'article comme si elle était l'équivalent américain de notre Maïté nationale. Enfin, moi aussi, je peux bien assumer mon corps si je ressemble à une bombe athlétique, hein. Je suis cap, hein. Arrive-moi donc l'adolescence et le lycée, épopée magique dont je suis ressortie en me disant que visiblement on me pardonnerait tout dans la vie, mais jamais mon poids. Allez, petit morceau choisi des gentillesses que les gens de l'âge de mes parents se sont chargés de me transmettre.
Bon, sois honnête, tu dis que le matin tu manges du pain et du beurre. Mais combien de centimètres de beurre sur la tartine ?
Question très sérieuse posée par un éminent médecin d'un grand hôpital parisien.
Tu es sûr que tu as vraiment besoin de ça ?
Question posée par une parfaite inconnue qui me voyait manger un sandwich poulet salade à midi. Quelle horreur ! D'ailleurs, à en croire beaucoup, je n'avais besoin de rien. Si je mangeais, c'était uniquement par gloutonnerie.
Tu sais, les gens dans les camps, ils n'étaient pas gros. Donc bon, hein, ne me sors pas d'histoire de métabolisme et de boulimie, moi, j'y crois pas.
Jolie répartie de ma prof de sport, elle-même fort grassouillette. Bon, en résumé, une alternance de moments humiliants et d'envie de meurtre. Il m'est arrivé de vouloir étouffer mes copines qui rentrent dans un 36, mais qui me bassinaient sur leur bourrelet imaginaire. Il m'a fallu des années pour comprendre que les complexes n'attendent pas le nombre de centimètres autour de taille. Et cela fait un bon moment que je n'ai plus aucun souci à réconforter ces mêmes amies quand elles se sentent immondes. Mais à 15 ans, alors qu'on pleure dans une cabine d'essayage parce que la taille la plus grande du magasin s'arrête 3 unités avant la sienne, la copine mince vous paraît comme l'ennemi numéro 1 à abattre. J'avais élaboré divers scénarios. Le plus élaboré d'entre eux était de m'asseoir sur elle, ni vu ni connu. Bon, mes chères lectrices, tout n'était pas si noir. Il y avait heureusement de compliments dignes d'être mémorisés et chéris comme de petites perles de gentillesse dans ce monde de brutes.
Tu as un joli visage quand même.
Bon, la variante acceptée, c'est dommage, tu as un joli visage. Il m'a fallu un paquet d'années pour comprendre pourquoi on ne disait jamais ça qu'aux filles grosses. Eureka, c'est facile. Si vous êtes mince et avec un joli visage, ben vous êtes belle, point barre. Tout le package est bon à être validé par la société. Tendez la fesse, le label rouge arrive. Mais si vous êtes grosse et dotée par un joli visage, les raisons de mère nature sont impénétrables, vous avez le droit d'être considérée comme une jolie cerise sur un gâteau moisi. Un vrai gâchis, en somme.
Bon, au moins, tu peux te concentrer sur tes études.
Me répéter ça alors que je viens de me prendre un énième « j'aime pas les grosses » par le kéké acnéique objet de mes rêveries adolescentes, ça réconforte. D'ailleurs, après chaque râteau, j'allais embrasser mon bulletin trimestriel.
Au moins, tu sais que si un type sort avec toi, c'est vraiment parce qu'il t'aime.
En effet, ouais. Des hommes qui cherchent les filles les plus fragiles pour assouvir leur soif de contrôle, ça n'existe pas. Hein. C'est bien connu. Et les filles minces ne tombent jamais que sur des abrutis superficiels, tout le monde sait ça.
Et aujourd'hui ?
Bref, après avoir galéré des années à vaincre ma boulimie et mes problèmes personnels, après avoir déménagé sans hésitation un paquet de fois pour mes études, puis mon stage, puis mon job actuel à 1000 km de chez moi, après avoir suivi une thérapie pendant des années, j'ai décidé de me mettre au sport, de manger plus sainement pour enrayer un début de diabète et d'arrêter de me flageller tous les jours comme si j'avais été responsable d'un génocide dans une vie antérieure. Bizarrement, je vis vachement mieux. Mais soyons clairs, je me tape toujours du chocolat noir quand ça me chante. J'ai dû changer d'alimentation à cause de problèmes de santé, certes, mais hors de question d'abandonner mes carrés de Lindt, faut pas déconner. Malheureusement, rien n'empêche les gens de commenter, encore et toujours, je suis toujours grosse. Beaucoup moins qu'avant, mais on va dire que je suis toujours plus du côté du 46 que du 36. La différence ? J'en ai plus rien à faire. Mon plus sévère juge, je le sais maintenant, c'est moi-même. et elle aussi, je finirais bien par me la mettre dans la poche, un de ces quatre.
Voilà, donc c'est des extraits d'un texte qui est un tout petit peu plus long, donc que vous trouvez sur le blog grosse-au-pluriel.wordpress.com. La fin de l'émission arrive, moi j'avais quand même envie de encore faire un petit appel à témoignage sur ces thématiques de un peu de notre rapport au corps et spécialement de la grosseur, quoi. Comment on gère. En plus, bon, avec le printemps qui arrive, voilà, on va se retrouver avec les couvertures de magazines plus que X semaines pour être belle en maillot, machin truc là. Du coup, voilà, comment vous faites pour... c'est quoi vos trucs en fait pour être bien dans vos corps, ou bon, pas forcément être bien tout le temps, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des petits trucs, astuces, ou comment vous êtes passé par divers phases ou pas
Et ouais, et comment vous vivez si vous êtes grosse, le truc de ces magazines là, je retombais, je sais plus lequel c'est, un magazine féminin qui a encore fait tout un dossier sur être grosse et aller être bien dans son corps et tout, avec des, pas avec juste Beyoncé, avec des vraies meufs là, de la vraie vie. Et sauf que bon, il y en a certaines qui sont effectivement plus grosses que tous les mannequins qu'il y a dans tout le reste du magazine d'ailleurs, donc c'est toujours très hypocrite. Mais ouais, c'est pas comme tu disais tout à l'heure, des femmes avec des bourrelets, elles restent quand même dans des corps, je juge pas ces femmes en tant que ce qu'elles sont elles, mais je trouve que de montrer ces femmes-là dans ce dossier grosse, alors que la plupart ont encore une taille assez marquée par exemple, restent quand même dans certains critères de féminité acceptables en fait. C'est une grosseur acceptable finalement, parce qu'elle est pas encore trop éloignée des codes de beauté. Et bon, et vraiment, je précise, c'est pas ces meufs là que je veux incriminer, c'est le fait de choisir que des meufs comme ça pour un dossier sur être grosse et bien dans son corps. Je me demande, et en fait j'ai l'impression qu'on donne très peu la parole aux grosses dans cette société. Si vous avez envie de vous emparer de l'antenne de Calibre pour parler de ça, et ben nous on serait très heureuses de vous accueillir.
Ouais. Absolument. On avait fait une émission thématique sur la grosseur, je pense, il y a un an, un truc comme ça, j'ai plus la date en tête, mais vous la retrouvez.
Mais on peut en parler encore et encore.
Mais voilà, moi, volontiers, je discute de ces sujets avec vous quand vous voulez. on va peut-être conclure.
On conclut avec le petit agenda.
Allez, petit agenda.
Bah, on se fait de la pub, quoi.
Oui, déjà. Allez, allons-y. Faisons-nous de la pub à nous-mêmes, une fois de plus.
Alors, les animatrices et les animateurs de Calibre vous invitent, si vous habitez à Grenoble ou les environs, à venir à une soirée qu'on organise à Antigone. Alors, Antigone, c'est un café, bibliothèque, librairie qui se trouve au 22 rue des Violettes. Donc, c'est une association. Hein. Et ce soir-là, le 30 avril, n'est-ce pas,
vendredi.
Vendredi, dans une semaine et quelques, là, on organise un grand jeu qui s'appelle Let's Talk About Sex.
Bon, l'idée...
Parlons sexe,
l'idée,
quoi.
Voilà. L'idée de base, c'est de parler sexe ensemble. Et comment ça va se dérouler, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on va faire des petites des tablés, on va se mettre par petits groupes et il va y avoir deux personnes qui vont... faire comme si elles étaient les animatrices et les animateurs Calibre et répondre à un appel. Donc cet appel, ça va être une autre personne du groupe qui va le faire, soit en partant d'une situation qu'il ou elle voudra amener, qui la concerne, ou une amie, ou voilà. Soit on aura préparé des petites cartes situation si vous n'avez pas d'inspiration, vous préférez tirer une carte.
Oui, voilà. Donc en somme, un petit jeu qui permettra de susciter des discussions sur les thèmes qui nous sont chers à Calibre. Et parce qu'on pense que la radio c'est bien, mais les débats à plein c'est chouette aussi, et c'est surtout hyper important. Voilà. Donc le 30 avril à Antigone, soirée Let's Talk About Sex organisée par Calibre.
Voilà, à 20h.
Voilà.
Et puis deuxième petit agenda.
Oui.
Le lundi 2 avril à 20h, alors cette fois c'est à Lyon que ça se passe, il y a un défilé qui s'appelle « Les préservatifs font leur show ».
Donc, ah oui.
Cette soirée sera dans le cadre du SIDAction 2012 et ça se passera à l'espace Jean Couty, je crois, qui est dans le 9e, vers le métro Gorge de Loup. Et cette soirée est organisée par l'association FRIS, Femmes Réduction des Risques et Sexualité, dont on a déjà parlé plusieurs fois parce que c'est une association qui organise notamment des formations sur la question des sexualités et qui est voilà, une asso qu'on aime bien. Et S-Mode Lyon, qui a l'air d'être une école de mode. Et donc, ils organisent une soirée sur le thème de la mode. Et le but, c'est de promouvoir d'une façon originale et esthétique l'utilisation du préservatif féminin.
Il va y avoir des robes en capote.
Voilà.
Ah,
voilà, ça
marrant,
va être
ça.
Donc un défilé de mode avec une collection entièrement réalisée à partir de préservatifs de capotes internes, là, les fémidons, par les élèves de première année de l'école, de cette école S-Mode à Lyon. Voilà, puis il y a d'autres choses dans la soirée, d'autres créations, une expo photo qui s'appelle Secret de Vagin. Et la soirée sera sous la bénédiction des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Donc il y a un groupe féministe.
Ça ouais. Promet.
Donc le lundi 2 avril à 20h, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez contacter l'association FRIS. Voilà, on mettra les coordonnées sur notre site.
Eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous écouter. On vous invite à nous appeler si vous avez envie la semaine prochaine, parce qu'on est là tous les jeudis à l'antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble. C'est possible de nous écouter aussi en différé justement en téléchargeant nos émissions sur notre site k-libre.poivron.org. Et voilà, on vous remercie de votre fidélité.
Pardon. Bah voilà, la semaine prochaine, on n'a qu'à dire hein, bonne soirée.
Oui, alors ce soir, ce soir, on se présente à la fin.
Oui, oui, on peut se redire.
C'était Myriam et Marina à l'antenne.
Et c'était Martine, Noémie, technique téléphone. Bonne semaine.
Ciao. Salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09. Thank you.